Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, j'imagine que les plus vieux d'entre vous auront reconnu ce générique. C'est une époque lointaine, il y a 20 ans, nous étions sur Canal+ en 1999, une époque qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. À cette époque, le leader n'avait pas 45 points d'avance sur son poursuivant. Au contraire, le titre cette année-là s'est joué à la dernière minute de la dernière journée. Nous sommes à la saison 98-99. Marseille et Bordeaux se sont tirés la bourre toute la saison et l'OM, entraîné par Roland Courbis, qui compte trois néo-champions du monde, Robert Pires, Christophe Dugarry et Laurent Blanc, l'OM va laisser échapper un titre de champion qui lui tendait les bras. Et ce titre de champion, bien, les Marseillais vont le perdre doublement au Parc des Princes. Tout le monde se souvient. Les plus anciens, bien sûr. Je ne vous regarde pas, Jean-Luc Caribard. Je vais présenter ceux qui sont autour de moi dans quelques instants. Tout le monde se souvient de la dernière journée et de ce but de Pascal Fédounou dans les arrêts de jeu qui prive Marseille du titre de champion, qui donne le titre aux Girondins. Mais ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que trois journées auparavant, déjà au Parc des Princes, l'Olympique de Marseille avait en fait perdu le titre en étant battu ce soir-là par le Paris Saint-Germain. Alors nous sommes en 99, une autre époque, je vous le disais, puisque à l'époque, le géant, c'est Marseille, et le nain, c'est le Paris Saint-Germain. Le 4 mai 99, ils étaient déjà vivants, et certains étaient déjà vieux. Ils sont autour de moi. Jean-Luc Caribard commentait le match aux côtés de Thierry Gilardi. N'est-ce pas, Jean-Luc ?
J'ai l'impression que c'était hier, oui.
Ouais, nous, pas vraiment. Hein. Et puis, sur ce stade, il y avait Laurent Paganelli, déjà échevelé, et un jeune Jouvenceau. J'ai failli employer un autre terme. Vous avez quel âge, Stéphane Guy ?
J'avais 28 ans, Hervé.
28 ans ? Ah, bah, ouais, vous ne les faisiez pas.
C'était ma deuxième année à Canal, je crois.
Ouais. D'accord. Et vous aviez été promu, puisque ce jour-là, quand même, homme de terrain, aux côtés de Laurent Paganelli. On avait renforcé l'équipe un petit peu.
On avait déjà reconnu mon immense talent.
C'est ça, c'est ça. Homme de terrain, vous posez des questions, on va vous entendre dans ces documents avec votre
Non, je ne sais pas, je ne sais plus par quelle incongruité je m'étais retrouvé là, mais en effet, il y avait l'habitude sur les très très grands matchs à l'époque de renforcer avec un deuxième homme de terrain. Donc Paga s'occupait des Marseillais et moi je s'occupais des Parisiens.
Voilà, et puis donc Jean-Luc Caribard, Thierry Gilardi au commentaire en haut. Et puis Geoffrey Garrettier, vous étiez où, Geoffroy?
À l'époque, je travaillais au Journal du Dimanche, mon cher Hervé.
D'accord, vous étiez au match, est-ce que vous allez se souvenir d'avoir assisté à ce match?
J'étais en tribune de presse, absolument, j'ai un souvenir hyper clair de ce match. En revanche, je ne l'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. J'avais évidemment vu les buts plusieurs fois. Ouais. Et donc, à l'occasion de cette émission prestigieuse à laquelle vous avez fait l'honneur de me convier, j'ai revu le match dans son intégralité, l'avant-match, la mi-temps, les commentaires hyper précis de Jean-Luc Caribard et du regretté.
Ah bah, il était lucide à l'époque.
Et du regretté Thierry Gilardi. Et ces saillies formidables de Stéphane Guy, déjà au micro, dont on pressentait la fulgurante carrière.
Alors, nous sommes le 4 mai 1999. 31e journée de championnat sur un championnat qui rencontre 32e, vous êtes sûr de
32e,
ça ? Vous avez vu me corriger tout à l'heure avec vos yeux torves. 32e journée, 32e journée sur un championnat qui en compte 34. Donc on est vraiment sur la fin. La situation, eh bien, c'est que Marseille a 2 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux sont en déplacement à Lens et dans le même temps, l'Olympique de Marseille se déplace au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est 10e et qui n'est pas sauvé. Hein, qui n'est pas sauvé. Est-ce que ça vous intéresse que je vous donne rapidement les compositions d'équipe?
Ah, bien sûr. Hein,
oui. Alors, côté marseillais, dans les buts, c'est Porrato. Une défense, Galas à gauche, Blondeau à droite. Laurent Blanc, Cyril Domoreau dans l'axe. Milieu de terrain, Luxin, Frédéric Brandeau. Pires, dans un triangle à 3, plus offensif. Et puis une attaque, Dugarry, Florian Maurice, Fabrizio Ravanelli.
Quelle attaque,
quelle équipe.
Que de grands attaquants.
Voilà, c'est quand même une équipe ambitieuse.
Trois numéros 9.
Roland Courbis est entraîneur. Et pour rajouter au contexte de ce match, les Marseillais viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA.
C'est une grosse équipe. Hein,
avec un pénalty tardif de Laurent Blanc à Bologne.
Même à Bologne, avec un match qui s'est terminé en bagarre générale. Ce qui va, comme Christophe Dugarry, toujours dans les bons coups. Il s'est battu et il ne va pas jouer la finale. Il est suspendu pour cette finale qui a lieu donc quelques jours seulement après ce match au Parc des Princes à Moscou, qui se passera mal puisque les Marseillais, on s'en souvient, vont être battus.
Mais ils ne le savent pas encore.
3-0. Eux ne le savent pas encore. Les Parisiens, alors une équipe, là pour le coup, qui n'a plus rien à voir. Les jeunes qui nous écoutent, écoutez cette composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Bon, Bernard Lama dans les buts quand même. Ça, c'est prestigieux, c'est international. Ensuite, Carotti, l'ancien Montpellierin, et Rabé Sandratana, qui était beaucoup plus svelte qu'aujourd'hui. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Alain Goma, l'ancien Auxerrois, défenseur gauche. Aliou Cissé, défenseur droit. Milieu de terrain, Pierre Ducrot. Jimmy Algerino, Yanovski, un russe hein, qui n'a jamais fait de grandes choses au Parc des Princes. Et puis une attaque avec Marco Simone en position de numéro 10. Marco Simone qui sera en direct avec nous parce qu'il a joué un rôle prépondérant dans ce match. Et puis devant, Adeyton, un Brésilien qui a laissé beaucoup moins de souvenirs que Neymar. Et Michael Madar, notre ami, notre consultant, Michael Madar, en attaque. Le Paris Saint-Germain qui vit, Geoffroy, une saison cauchemardesque, disons-le.
Oui, c'est la première saison, si ma mémoire est bonne, de l'après Denisot.
Exactement. Charles Bietri a été nommé président.
Exactement.
Avec le succès qu'on sait.
Tout a changé et tout a en fait périclité. Paris a été éliminé
par le Maccabi Haïfa.
Ouais, très vite en Coupe des Coupes, c'est ça?
Oui, premier tour, je crois.
Voilà, catastrophiquement. Giresse a été viré rapidement de son poste d'entraîneur. Bergerot l'a remplacé.
Non, c'est Arthur Georges qui le remplace dans un premier temps.
C'est Arthur Georges qui revient et ensuite c'est Bergerot. Et puis les résultats sportifs ne suivent pas. Et au moment où ce match a lieu, donc au matin de la 32e journée, le PSG, si ma mémoire est bonne, est 10e au classement avec seulement 4 points d'avance.
Exactement.
Sur le 16e Lorient.
Exactement. Donc le Paris Saint-Germain est loin d'être sauvé au moment du coup d'envoi de ce match. Est-ce que vous vous souvenez, Stéphane et Jean-Luc, si on parlait déjà de Classico? Oui, on parlait déjà de Classico. Est-ce qu'il y avait cette tension inhérente à ce match?
Ah oui, c'était l'affiche numéro 1 déjà de la Ligue 1, ces matchs entre l'OM et le PSG. Et d'ailleurs, lorsqu'on revoit ce match, on mesure toute la détermination, toute la conviction du Paris Saint-Germain à jouer ce match. Alors, ils étaient évidemment pas sauvés, mais enfin bon, ils n'étaient quand même pas non plus dans une situation d'urgence absolue. Mais il y avait surtout une volonté, une rage même de la part de certains joueurs du Paris Saint-Germain, Marco Simone parlera peut-être, à ce que l'OM ne soit pas sacré champion de France.
Mais la grosse différence, Stéphane, c'est que à l'époque, ces classicos-là, c'était pour déterminer souvent le titre qui allait être champion, soit le PSG, soit l'OM. C'était la bagarre pour le titre.
C'est le retour de l'OM au sommet.
Cette fois-là, c'était le PSG qui jouait pas sa peau, mais qui était pas loin du 16e. Et c'était dans un groupe, un championnat à 18 équipes. Et effectivement, le PSG n'était pas sauvé à 3 matchs de la fin.
Et l'Olympique de Marseille a fait son retour
en
Ligue 1
deux saisons. Vous avez donné les noms, Hervé.
Ouais, c'est
vous
très,
imaginez
très
quand même que deux ans avant, ils gagnaient la Coupe des Coupes avec une équipe d'internationaux. Là, vous avez des joueurs. Quand on y repense 20 ans après, on en sourit. C'est-à-dire que le grand remue-ménage auquel Bietri s'était livré l'été précédent avait été un fiasco absolu en termes de recrutement. Il avait pris un nombre de tocards hallucinant. Ouais.
Okocha a été remplaçant, il va rentrer en fin de match, mais Okocha, on se demandait s'il avait vraiment du talent ou si c'était un imposteur. Enfin, on saura après qu'il en avait énormément évidemment de talent.
L'Olympique de Marseille était remonté en D1 en 96-97 seulement, donc c'était relativement récent. Pour vous donner un petit peu repère, un petit repère, c'est en tout début de saison que Marseille avait battu Montpellier 5-4 après avoir été mené 4-0. Donc Marseille,
c'est la première année post-tapis où l'OM joue à nouveau le titre de champion en France.
Exactement. Et Marseille et Bordeaux qui...
Marseille aurait pu se mettre à l'abri assez rapidement cette saison-là. Mais ils ont fait des matchs nuls assez malencontreux contre Bordeaux en début de saison et contre Rennes, y compris contre le PSG d'ailleurs. Il y a eu un 0-0 au Vélodrome, qui fait que à 3 journées de la fin, donc Marseille n'a que 2 points d'avance sur Bordeaux.
Ouais, Marseille effectivement a raté. Vous parlez du match aller contre Bordeaux, qui est donc son grand concurrent. Les deux équipes sont au coude à coude, 2-2. Kaba Diawara avait égalisé au match aller au Vélodrome à la dernière seconde, donc occasion ratée hein, pour Marseille. Et puis avant ce match au Parc, Marseille a pris 4-0 à Lens quand même et a fait 0-0 à domicile face à Lyon. Bordeaux n'en a pas vraiment profité, mais donc on est à 2 journées de la fin, c'est bien ça Geoffroy?
Oui.
3 journées, je vais y arriver. Voilà, 3 journées de la fin. Et donc,
Marseille est devant
Bordeaux. Mais c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, vous foutez de moi.
Non, mais vous avez dit que c'était la 31e journée.
Oui, bah, j'en sais rien, mais en tout cas c'est la... 31,
32e. C'est la 32e journée.
En tout cas,
ils ont deux points d'avance, Marseille, mais ils ont un goal average qui est
négatif.
En faveur de Bordeaux.
Voilà, mais Bordeaux joue à Lens, qui est un match difficile, et Marseille joue donc au Parc des Princes. Et dans ce match, alors qui a été monté aussi au départ, Francis Liasser, par exemple, avait annoncé dans la presse qu'il était grand supporter de Bologne avant la demi-finale de Coupe d'Europe. Et Patrick Blondeau, on connaît tous le caractère de Patrick Blondeau, a dit « Ça, mon petit, ça ne se dit pas. Avant le match, je vais aller lui tirer les oreilles, lui dire que ce sont des choses qui ne se disent pas. » Bref, de l'électricité dans l'air, un match qui va démarrer de manière très ouverte, ça joue très bien. Et puis, à la 26e minute, je crois, j'ai un petit doute sur la minute, je parle sous le contrôle de Geoffroy, mais on s'en fout, on est 20 ans après, vous n'allez pas nous emmerder pour une minute. Il y a un ballon qui va arriver en retrait, Carotti va faire une carotte et on écoute le son de l'époque, Thierry Gilardi, Jean-Luc Arébar, sans te commenter, on est sur Canal en 99.
Atana, Carotti, ça peut profiter à Florian Maurice, tête à tête avec la main, et but! 21e minute de la première période, but de Florian Maurice.
La 21e minute pour Florian Maurice, qui était au Paris Saint-Germain la saison précédente, ça avait été un échec, et qui va faire une très belle saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, et qui fait un très bon match. Hein. J'ai regardé le match hier, pour me le remettre en tête, c'est un battant Florian Maurice, il n'a pas participé à la Coupe du Monde, donc il était un peu
frustré. Il aurait dû, hein. S'il n'avait pas été blessé, Florian Maurice aurait été le numéro 9 de l'équipe de France à la Coupe du Monde.
Il était bon, hein. Il était très bon.
Oui, il était très bon. Alors Stéphane a dit quelque chose de très intéressant dans la compo de Marseille, il y a trois
ans.
Oui, pour une fois. Ouais. Non, on est obligé de dire du bien ou pas?
Oui, ouais, allez-y.
Et il y a trois numéros 9, en fait, trois avançantes dans cette équipe de Marseille dans la ligne d'attaque. Dugarry va s'occuper du côté gauche. Maurice est l'avant-centre
axial. Gauche, avant-centre droit.
Avant-centre axial. Et Ravanelli navigue plutôt sur le côté droit. Et c'est Pires qui est chargé d'organiser le jeu en soutien. Brando bosse au milieu de terrain derrière. Avec Luxin qui a remplacé Eric Roy, qui aurait dû jouer, mais qui se blesse juste
à l'échauffement.
Ouais, exactement.
Et d'ailleurs, pour le malheur de l'OM.
Bon, c'est on en parlera tout à l'heure. Mais c'est une équipe qu'on sent plus forte, qui va dominer cette première mi-temps. Il y a Laurent Blanc qui fait un boulot formidable derrière, plein d'assurance. Domoro, dont je me souvenais plus trop, mais qui était un super stopper, et ils font une paire de centraux très, très intéressante. Ça bosse bien au milieu, et Pires, Dugarry régale avec leur technique. Maurice fait beaucoup d'appels de balles, comme il faisait. Bref, c'est une équipe qui, malgré ce fait de jouer à trois avançantes, était plutôt intéressante offensivement.
Et comme d'habitude, Hervé, et d'ailleurs le commentaire de Thierry Gilardi et Jean-Luc Arribard le rappellent, un ancien Parisien vient marquer au Parc des Princes. C'était la coutume
comme
dans ces années-là.
Le Paris Saint-Germain en difficulté, qui a du mal à se créer des occasions, qui est mené à la mi-temps. Et le brillantissime déjà Stéphane Guy, du haut de ses 14 ans, pose une question à Florian Maurice à la mi-temps. On va l'écouter, Florian Maurice.
Florian, est-ce que le plus dur n'est pas fait pour Marseille, mener 1-0 au Parc?
Non, en effet, je pense qu'il reste 45 minutes. Il faut qu'on joue tel qu'on a joué en première période, c'est-à-dire jouer une touche de balle, deux touches de balle, faire courir le ballon et mettre les occasions. Parce qu'on s'en crée encore deux après le but. C'est l'occasion de faire le break, on ne le fait pas, j'espère que ça. On ne le regrettera pas en fin de match.
D'où vous venez ces questions aussi brillantes, Stéphane?
Alors, je vais vous livrer un secret de fabrication. C'est Jean-Luc Arébar qui écrivait les questions.
Ah, d'accord.
Avant, et je n'avais qu'à les lire.
On comprend mieux. Bon, on se dit tous à ce moment-là quand même que Marseille tient le bon bout. Marseille n'est pas vraiment en difficulté. Face à une équipe de Paris Saint-Germain, rappelons-le, qui est en plein doute.
Il y a un but. C'est en deuxième mi-temps.
La première mi-temps, elle est dominée par Marseille.
Mais ça va changer.
Mais il y a quelque chose qui est important aussi à noter, c'est que la pelouse n'était pas terrible du Parc des Princes. Et volontairement, les Parisiens ont laissé la pelouse assez haute. Ils ne l'ont pas trop tendue parce qu'ils avaient peur justement de la circulation de balles des Marseillais qui pratiquaient un jeu assez, assez rapide. Ils s'en méfiaient tellement qu'ils avaient volontairement demandé aux jardiniers de laisser une pelouse un peu pourrie et assez haute.
Justement, ça me permet de faire une petite parenthèse. On va revenir un peu en arrière dans le déroulé du match. C'est vraiment le foot comme on ne le connaît plus, quoi. Le Parc des Princes, il y avait une pelouse pourrie. Il y avait encore les supporters.
Il y avait eu de gros incidents avant match.
Il y avait eu de très gros incidents avant match entre supporters rivaux. On se rappelle qu'il y avait à l'époque le Cup of Boulogne, qui était de presque sinistre mémoire, même s'il y avait plus d'ambiance au Parc des Princes qu'aujourd'hui. Il y avait aussi dans les maillots une symbolique, parce que c'était le Echter côté le vrai Echter original côté PSG. Bref, c'était un match qui était labellisé ancien temps, vintage. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus aseptisé et il y a aussi des joueurs beaucoup plus brillants sur la pelouse. Mais c'est plus le même style de combat.
Et Paris n'a plus les couleurs de Paris.
Voilà.
Alors, on va.
C'est ce que je voulais
dire. Avec ces maillots, trois tailles trop grandes.
Ouais, ouais, ça, c'est
hyper,
frappant,
hyper
c'est
brillant, frappant, hyper brillant et trois tailles trop
grandes. Ouais, ouais, les maillots de l'Olympique de Marseille, ça, c'est des peignoirs hein, aujourd'hui.
Ouais,
c'est, hein. c'est incroyable. Donc, à la mi-temps, le Paris Saint-Germain est mené 1-0. Mais le PSG va réagir en seconde période, va se créer des occasions. Mickaël Madar va faire une tête magnifique sur le poteau, alors que Porato, hein, Stéphane Porato, qui était dans les buts, était battu. Et puis,
c'était pas le point fort de l'OM, le gardien de but.
Non, 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 effectivement, il était assez contesté et pas toujours très, très rassurant.
Il avait remplacé Köpke, non si ma mémoire est bonne. C'était pas Köpke sur le banc à l'époque où Köpke avait été.
Il avait peut-être pris la place de Köpke, ouais. Mais je suis pas sûr. Peut-être pas à cette période. Et puis à la 52e minute, donc il y a eu le poteau de Madar dont je vous parlais. Et dans un moment fort du Paris Saint-Germain qui va se créer plein d'occasions en l'espace de 2-3 minutes, il va y avoir un but pour Mickaël Madar. But refusé. Nous avions déjà. Avant tout le monde, la VAR. Écoutez les commentaires.
Simonet à l'entrée de la surface de réparation.
Hors-jeu,
hors-jeu. Hors-jeu, parce que cette tête,
hors-jeu signalé.
Voilà. En tout cas, le hors-jeu est signalé.
Ouais, signalé tout de suite. On va voir.
Monsieur Renaudin, tout là-bas. On va regarder. Eh bien, il n'y a pas hors-jeu.
Non, il n'y a pas hors-jeu. Quand le ballon quitte le pied de Marco Simonet, regardez, il est parfaitement sur la même ligne. Et sur la même ligne, c'est pas hors-jeu.
Il n'y a pas hors-jeu.
Il n'y avait pas hors-jeu, et non, pas du tout, hein, mais Mickaël Madar a été volé.
Ouais, elle est bien meilleure, cette deuxième mi-temps des Parisiens qui portent moins le ballon. On voit davantage Simonet, Janowski joue presque comme un ailier gauche. Ça joue plus vite, plus direct, ils mettent beaucoup plus d'impact dans les duels, ils dominent la rencontre.
Il y a le coaching de Bergerot qui fait rentrer les joueurs de ballon, notamment vous parliez de Kocha tout à l'heure.
Ouais, c'est en fin de match.
Ou Jérôme Leroy qui viennent.
C'est en fin de match, Stéphane. C'est vraiment un changement d'attitude et tactiquement.
Alors,
ça joue mieux.
Attendez, parce que
Marseille se met à reculer.
Alors justement,
Marseille est une équipe qui est très étirée. La défense joue presque à hauteur de la surface de réparation et l'attaque, elle est.
Vous parlez du coaching de Philippe Bergerot, mais il y a le coaching de Roland Courbis également. Et là, pour le coup, on est dans cette période-là, juste après le but refusé à Mickaël Madar, à la 55e minute, donc une minute plus tard, Florian Maurice sort, Edson, un Brésilien, là aussi, qui n'a pas laissé beaucoup de souvenirs,
pas
rentre.
Hein, Edson,
et on entend que Laurent Pagani dit « L'OM a décidé, à la demande de Roland Courbis, de garder le ballon. Voilà. Et on voit un OM qui ne joue plus du tout, qui est dans une, dès la 55e minute, qui est dans une envie de conserver le ballon, ce qui ne va pas du tout le réussir. Est-ce qu'il a fait une erreur, Roland Courbis ?
Alors, il y a aussi un changement qui a été différent, c'est-à-dire que Roland Courbis voulait changer un joueur, et c'est Laurent Blanc sur le terrain qui, voyant que Galas, qui avait pris 2-3 coups, n'était pas au mieux, a contrarié le changement de Courbis pour faire changer Galas plutôt qu'un autre joueur. Et Edson, qui était rentré comme attaquant sur le côté gauche, a été obligé de jouer un poste inhabituel derrière gauche. Et tout ça, c'est encore un moment où l'OM mène 1-0. Et l'OM est dans une gestion qui n'est pas rassurante parce qu'ils sont... Ils essaient de jouer tranquillement au ballon. Pires et Dugarry la gardent. Dugarry avant de sortir. Ils combinent bien, mais beaucoup loin du but. Il n'y a plus d'occasion pour l'OM. Et ça donne beaucoup d'espoir aux Parisiens qui jouent un jeu beaucoup plus direct avec des longs ballons pour toucher la tête de Madar, par exemple.
Et on rappelle qu'au même moment, Bordeaux joue à la même heure, hein, même minute,
à Lens.
Et qu'évidemment, le résultat des Bordelais influe aussi la tactique de l'entraîneur et
parce que Bordeaux,
il y a deux partout à Lens entre Lens et Bordeaux.
Bordeaux va même être mené 2-1.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'OM est quasiment champion.
Exactement.
En menant 1-0 au Parc avec un Bordeaux mis en échec à Lens, 2 points d'écart avant le coup d'envoi.
Alors qu'à
l'OM
moment,
est quasiment champion de France.
C'est ça. À un moment, ils ont 5 points d'avance, l'OM, parce que Bordeaux est mené. Ouais.
Et ce qui est assez intéressant, parce que moi, je me souviens du match en tribune, et on voit que l'OM commence malgré tout à se recroqueviller. C'est un peu le syndrome de France-Bulgarie. Tu as la pression et tu cherches à garder le résultat plutôt qu'à l'accentuer. Et en revoyant le match, il y a ce commentaire assez prémonitoire de, je crois que c'est Paga, qui dit côté sur le banc marseillais, ils sont tous très tendus, très 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 tendus, là ça commence à devenir chaud pour eux.
Mais voilà. Je crois que c'est Dugas.
Et juste quelques secondes plus tard.
Ouais, c'est Dugas quand il sort. Il est au micro de Paga et il a une analyse très, très juste, déjà. Et il dit oh, on mène 1-0, mais ça risque peut-être de ne pas suffire pour la fin du match.
Effectivement, effectivement. On sent que Marseille, qui avait vraiment le match en main, qui était bien, commence à reculer. Alors, ils vont reculer sans céder dans un premier temps. Et puis, Batman va arriver. Batman, c'est Marco Simone qui, ce soir-là, porte le brassard de capitaine et va marquer un but extrêmement important, le but de l'égalisation. Marco, qui est avec nous en direct. Marco Simone.
Bonsoir à tout le monde.
On est en train de parler de ce rendez-vous de 99, ce match où Paris, on l'a dit, joue le maintien, Marseille joue le titre. Est-ce que tu te souviens très bien de ce match déjà, Marco ?
Mais il ne faut pas trop souvenir parce que je pense que les Marseillais, ils avaient oublié. Et là, si on reparle des buts qu'après il a fait, il a enchaîné la défaite et la perte du titre à Marseille, les Marseillais vont se souvenir de moi.
Et ouais,
donc,
bon.
On avait calmé un peu le jeu là. Ça va.
On va raviver. On va raviver.
Je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Ça a été un moment particulier parce que personnellement, j'avais la joie de marquer contre Marseille. Et de l'autre côté, je savais qu'en plus, c'était mon dernier derby avec Marseille.
Parce que tu savais que tu allais quitter le club.
J'avais quitté Paris. Donc, je me souviens très, très bien. Je me souviens des dribbles sur Laurent Blanc et les buts marqués. Après, la fête que j'ai fait sous le virage de Marseille avec mon Batman.
C'était quoi le sentiment qui prédominait ? Est-ce que c'était le soulagement de savoir que Paris Saint-Germain allait se maintenir parce que ce n'était pas totalement évident au coup d'envoi ? La victoire, le soulagement, la joie d'avoir battu Marseille ou la joie de se dire qu'on avait peut-être privé de Marseille du titre de champion ? C'était quoi le sentiment dominant, Marco, ce soir-là ?
Alors, je vous dis la vérité, aucune de les trois. J'avais le sentiment des rages, parce que c'était une rage individuelle, parce que je savais que je serais parti, chose que moi, j'aurais pas voulu faire. J'aurais voulu rester à Paris et continuer à Paris. Et donc, c'était plus un sentiment individuel. Après, je me suis rendu compte après qu'effectivement, ce but-là a donné une importance à la suite du championnat, parce que c'était l'égalisation. Après, on a marqué un deuxième but et Marseille, sur ce match-là, il a perdu le titre.
C'est vrai que
mais sur le coup, c'était plus une rage individuelle.
C'était très chaud. D'ailleurs, il y avait eu un échauffouré en début de première période dans lequel tu vas prendre un carton jaune. Tu étais remonté comme un coucou sur ce match. Hein.
Ah, bien sûr. Et j'ai rencontré l'arbitre. Je ne me souviens pas le nom.
Alain Sars. C'était Alain Sars.
Voilà, Alain Sars. Je l'ai rencontré beaucoup d'années après. Il m'a dit, écoute, normalement, sur le but, j'aurais dû être expulsé parce que t'as enlevé le t-shirt, le maillot.
Ouais, le maillot, ouais.
Et donc, normalement, il fallait te donner un autre carton jaune. Je l'ai pas fait parce que ça aurait pu être très, très chaud par rapport à l'enjeu, par rapport à le derby. Donc, il m'a dit ça et ça m'a touché parce qu'effectivement, et la règle, c'était que normalement, j'aurais dû prendre un carton jaune, un deuxième carton jaune, et donc expulsé. Et peut-être il aura changé les cours de la dernière 15-20 minutes. Hein.
Oui, parce que t'es passeur décisif. Non, c'est Madar.
Mais
juste un mot sur ton but, Marco, parce qu'il est extraordinaire ce but. Parce que tu dribbles Laurent Blanc, certes, mais derrière, c'est une frappe terrible, sans élan.
Mais c'est surtout, je pense que c'était une frappe qui. Que les gardiens ils s'attendaient pas parce que j'ai frappé tout de suite après la sortie du dribble. Donc j'ai anticipé la frappe. Et ça, c'est un peu au-delà que c'était bien frappé, il était en diagonale. Je crois que l'effet surprise, l'anticipation de la frappe à la sortie du dribble, il a un peu surpris les gardiens.
Ouais, Marco, c'est une frappe surprise. Je pense que cette frappe surprise croisée trompe Porato. Mais tu fais bien de parler du carton parce que le premier carton que tu prends, c'est sur un gros tacle hein, sur Pires. Tu te souviens de ça ? Il y avait pas mal. Le jeu était assez dur à un moment hein, dans le match. Et toi, c'était pas très habituel de devoir tacler comme ça sévèrement un adversaire.
C'était dur parce que la semaine quand même avant le match, sur la presse, un peu partout, il y avait eu des, quand même des déclarations entre nous et Marcel, un peu chaud. Donc c'était un peu tendu. On savait aussi qu'il y avait l'enjeu du titre pour Marcel. Et on savait aussi que les supporters de Paris s'attendaient quand même à une équipe vraiment agressive sur le terrain dans tous les sens. Donc c'est vrai, j'ai fait un geste que normalement j'étais habitué à subir, mais je voulais montrer quand même, en tant que capitaine, un peu la voie de cette match, l'attitude à mettre sur le terrain. Mais c'est pour ça que je l'ai mal fait, donc j'ai pris un carton jaune.
Tu voulais lui expliquer comment il fallait muscler son jeu à Pires, hein, c'est ça, ouais.
Il fallait un peu montrer la voie, même si ce n'était pas ma caractéristique, mais je voulais montrer d'entrée, voilà, la situation, mais qu'il fallait mettre sur cette match-là.
Marco, ce but va en 3 minutes faire perdre le titre à Marseille, puisque dans le même temps, Bordeaux va marquer à Lens. Est-ce que vous sentez, à ce moment-là, que l'OM est en train de craquer? Est-ce que ça se sent sur le terrain que l'OM est quasiment mort?
Non, forcément non, même si on entendait quand même les supporters un peu chanter, un peu crier, comme si c'était en train, eux, de gagner, ou nous, de gagner le titre. On avait la sensation que quelque chose il y avait, et donc on a un peu imaginé que c'était mon Bordeaux, il était en train de gagner, mais on ne s'est pas rendu tout de suite compte. Donc pour nous, c'était vraiment essayer de battre Marseille, parce qu'en tout cas, on savait qu'en gagnant, on pouvait imaginer que Bordeaux pouvait faire un coup. Et donc la sensation de Marseille qui était en train de craquer par le titre, il y avait.
Merci.
Pas vraiment conscientement, mais il y avait quelque chose.
Merci beaucoup, Marco. On va continuer à parler de ce match ensemble. On te remercie d'être intervenu avec nous sur ce petit moment de nostalgie. C'était il y a 20 ans. Merci beaucoup, Marco. À bientôt.
Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup.
Merci. Alors, vous l'avez dit, hein, Geoffroy, après ce but de Marco Simone, inscrit à la 84e minute du match au Parc, dans la foulée, Philippe Bruet, qui est l'envoyé spécial de Canal à Lens, va demander l'antenne, prendre l'antenne, car il s'est passé quelque chose d'important à Bollaert.
Thierry, ici Lens avec un but extraordinaire de Sylvain Wiltord, le championnat est sans nul doute en train de rebondir au fil des minutes ici. Il avait tout raté, il vient de marquer l'un de ses plus beaux buts cette saison.
Un but absolument exceptionnel, une frappe qui va ricocher dans la lucarne et qui donne l'avantage aux Girondins de Bordeaux qui mènent désormais 3-2. Bordeaux qui va s'imposer finalement à Lens 4-2 avec un but de Mikou dans les dernières secondes. Donc voilà, Bordeaux qui était mené à un moment donné, tenu en échec, l'emporte. Et au Parc des Princes, à la 88e minute, il va se passer quelque chose. Vous voulez dire quelque chose?
Non, mais c'est ça. C'est Simonet marque à la 84e exactement. Minute de la 32e journée.
84e. Voilà. 85e, Wildon donne l'avantage. Et 88e, Madar donne à Bruno Rodriguez. On écoute.
Ah, Luxin qui a évité Simonet, mais qui se heurte à Leroy. Madar, directement pour ballon. Rodriguez, qui a évité Morato. Et but de Bruno Rodriguez, qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-1.
Et c'est incroyable, parce qu'il y a quelques minutes, Marseille menait. Ensuite, Paris Saint-Germain égalise. Bordeaux marque un but. Marseille en encaisse un deuxième. Incroyable retournement de situation.
En 5 minutes, Marseille, qui avait 4 points d'avance, se retrouve avec 1 point de retard. On ne le sait pas encore, mais en 5 minutes, Marseille vient de perdre le titre de champion.
Oui, alors qu'encore une fois, ils avaient parfaitement géré jusqu'à... Allez, très bien la première mi-temps, jusqu'à la 84e et l'égalisation de Paris. Et ils vont tout perdre dans les dernières minutes. C'est un ballon perdu par Luxin qui va profiter aux Parisiens. La passe de Madar est superbe parce qu'elle est faite instantanément entre les deux défenseurs centraux marseillais et l'enchaînement de Rodriguez qui était rentré lui aussi en fin de match.
Porato.
Qui évite Porato et qui marque. Enfin, c'est le délire dans le Parc.
Ouais, vous m'avez repris sur les changements. Ils interviennent quand même. Jérôme Leroy à 76, Rodriguez 60e minute, Okocha 71. Donc c'est bien quand même le coaching de Bergerot pour aller chercher la gagne. Qui fait la diff dans ce match-là.
Ils n'ont pas le choix, ils sont menés quand ils font ce coaching.
Moi, je suis dans la tribune de presse à ce moment-là et je m'énerve sur Luxin. Et je fais le lien avec la question.
Qui est supporter de l'OM, Geoffroy?
Pas du tout. Mais pour le geste, en fait. Parce que Marseille est vraiment déboussolé. Et en fait, Luxin, qui est au milieu du terrain, dans le rond central à peu près, n'a pas de solution autour de lui. Donc il commence à tripoter, une touche de balle, deux touches de balle, et je te fais un râteau, etc. Et derrière, il y a Jérôme Leroy, qui, fidèle à sa réputation, vient lui arracher le ballon dans les pieds, qui tout de suite passe sur Madar, et Madar a fait la passe de sa vie, quasiment. Il fait d'ailleurs un match magnifique, Michael.
C'était un bon joueur, ce Madar.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il est devenu ?
Et là, le PSG renverse le truc, et Marseille, là, pour le coup, on le sent, ils sont démoli, littéralement.
Les amis, c'est la première victoire du Paris Saint-Germain
depuis 9 ans.
Canal+, face à Marseille. Ça faisait depuis 90. Effectivement, ils ont gagné en Coupe de France. Mais première victoire depuis 90 des Parisiens face aux Marseillais. C'est un triomphe pour Paris, donc, qui assure son maintien ce jour-là, qui fait chuter l'Olympique de Marseille, qui se retrouve donc derrière Bordeaux, alors qu'il ne reste plus que deux journées. Et tout le monde pressent que Marseille vient de laisser échapper le sacre, hein, le Graal.
Ouais, et puis c'était compliqué quand même pour Bordeaux. C'était assez inimaginable parce que Marseille va au Parc avec 2 points d'avance et mène 1-0 jusqu'à la 84e. C'est dire si les affaires sont bien engagées. Bordeaux va se taper Lens à Bollard.
Lens qui prépare sa finale de Coupe de la Ligue.
Et Lens, qui était champion l'année précédente, qui avait une grosse équipe. Ils arrivent à gagner là-bas. Et ils savent que 2 jours après, pour la dernière journée, ils vont venir à Paris.
Deux journées plus tard.
Donc, ils avaient un drôle de calendrier. Les Bordelais, normalement, étaient en large infériorité avant de...
Et tout le monde pressent que le titre va se jouer au Parc des Princes sur la dernière journée. Et au Parc des Princes, Bordeaux ira chercher donc son titre face au Paris Saint-Germain, le grand rival de Marseille. Et Stéphane Guy, qui déjà pose les bonnes questions, est en interview avec Philippe Bergeron à la fin du match et lui pose cette question. Écoutez la réaction de Philippe Bergeron et la réaction de Jean-Luc Caribard et Thierry Gilardi dans la foulée.
Philippe, il y a votre accent aquitain. Est-ce que Paris, qui a fait un extraordinaire match contre Marseille, fera le même match contre Bordeaux le 29 mai ?
Mais je suis un petit peu surpris de votre question. Vous savez, je suis un gagneur, donc il n'y aura aucun problème.
Ouais, ben les choses elles vont mieux en le disant et c'est bien d'avoir entendu Philippe Bergeron mettre les choses au point. Je crois qu'on ne peut pas avoir de doute. Pour tous ceux qui ont côtoyé une seule seconde Philippe Bergeron, c'est un vrai compétiteur, c'est un gagneur et il n'est pas question une seule seconde de lâcher quoi que ce soit jusqu'au 29 mai 22h30.
Il n'y aura pas le moindre doute.
Vous n'avez toujours pas le moindre doute, Jean-Luc Caribard, 20 ans plus tard ?
Non, aucun doute. Quoique,
vous étiez visionnaire. Hein.
Quoique. Moi, j'avais comme un doute dans ma question.
Oui, ouais, mais on sent bien que vous étiez là, hein, Stéphane, quand même. Hein.
Non, et puis c'est chouette d'avoir choisi Simonet comme interlocuteur tout à l'heure, Hervé, parce que d'abord, donc, il a marqué ce but important. C'était son cadeau d'adieu à Paris, tel qu'il le dira au micro de Canal ce soir-là. Et surtout, rappelez-vous, donc lui ne voulait pas partir, il voulait encore répéter là, il voulait rester à Paris. Et l'année d'après, Simonet, qu'est-ce qu'il fait ? Il part à Monaco, il est champion avec Monaco et il est le leader offensif de l'équipe de Monaco. Donc on est dans le gâchis parisien d'un côté et puis...
Et le gâchis marseillais.
Et puis dans les soucis marseillais. Ouais.
Alors revenons quand même sur cette histoire de dernière journée. Voilà, on va déborder un petit peu ce PSG-Marseille parce que voilà, il faut quand même rétablir les choses. Tout le monde ne retient que ce dernier match, mais on vient de vous le montrer à travers cette émission. C'est que Marseille n'a pas perdu le titre que dans les dernières secondes lors du PSG-Bordeaux. Voilà, ils ont été battus dans ce match presque décisif pour le titre. Ils ont été battus au Parc, ils avaient pris 4-0 à Lens également. Ils ont eu maintes fois l'occasion d'assurer ce titre, ils ne l'ont pas fait et se sont exposés à dépendre finalement du Paris Saint-Germain, de leur grand rival lors de la dernière journée. Venons-en quand même à ce match, cette dernière journée. Victoire de Bordeaux, Pascal Feindeneau à la dernière seconde qui donne la victoire et le titre à Bordeaux. Vous y étiez également, Geoffroy ?
Absolument. Et je me souviens.
Geoffroy, il était à la construction de la Tour Eiffel. Je me rappelle très bien
d'ailleurs. Après ce match.
Je me souviens de la conquête du Tonkin par Citroën. Aussi, non, bravo.
C'est gentil. Et d'Amundsen et Pierry aussi, Pôle Sud, Pôle Nord, bien sûr. Non, je me souviens que après cette victoire donc, du PSG sur Marseille dans la 32e journée, je vais rejoindre des amis à Saint-Germain-des-Prés.
Ah, vous avez eu des amis à l'époque.
Pour dîner, absolument, j'en ai plus, mais c'était le cas à l'époque. D'accord. Il y a 20 ans, j'étais plus sympa sans doute. À l'époque, je me rappelle d'avoir croisé quelques supporters du PSG qui avaient donc battu l'OM et qui étaient fous de joie. Et disons, on va se prendre 5-0 contre Bordeaux au dernier match. Et comme ça, le triomphe sera complet. Et donc, ça veut dire que dans l'esprit du public parisien, gagner, c'était perdre ce match. Et c'était empêcher Marseille ouais. de devenir champion. D'ailleurs, et c'est important pour moi pour remettre en perspective le déroulé du match.
Dans les archives de ce PSG Marseille dont on vient de parler longuement, il y a une clameur à la fin du match, mais comme un but, hein, quand le speaker annonce que Bordeaux a gagné à Lens. Donc, pour revenir ensuite au match PSG-Bordeaux, c'est vrai que le public est furieux quand Al Dayton, je crois, marque pour Paris, est en train de finalement donner le titre à Marseille. C'est ça le souvenir que vous avez, Stéphane, hein.
Je crois que les supporters de Paris n'auraient pas pardonné à leur équipe de battre Bordeaux ce jour-là, comme elle ne leur a pas pardonné de perdre au Parc contre l'OM trois semaines plus tôt.
Mais on ne peut pas dire malgré tout que l'équipe du Paris Saint-Germain dans son entièreté a dit « les gars, on laisse filer, on laisse marquer ». Il y a peut-être des joueurs
non,
qui étaient
un peu
moins...
Non, j'en ai aucun doute, moi, Hervé. J'ai c'est toujours aucun doute.
Non, 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 mais il y avait des joueurs plus motivés que d'autres, on va dire. Non, c'est ça le truc.
Mais ils l'ont avoué, non ?
Ouais,
certains ont dit, certains on était... Ben, pas tous, pas tous. Enfin, certains ont dit non,
vous
savez, moi,
dans une
non.
Équipe, dans une équipe de, l'équipe de Paris de l'époque, vous avez vous avez encore quelques titis parisiens, notamment Jérôme Leroy, par exemple.
Pierre Ducrot.
Pierre Ducrot, il y en a quelques autres, ou alors des joueurs marqués au fer rouge Paris, comme Bernard Lama. Et puis vous avez des joueurs, effectivement, à Delton, la rivalité Marseille-PSG pour un joueur qui venait d'arriver en France, ça lui passait
très bien. Il est content de marquer
au-dessus.
Un but, il marquait rarement.
Voilà, il y a marqué rarement le point.
Ouais. Ouais. Voilà, et puis donc, Fille de Nouveau va marquer, Elie Bope et les Bordelais vont être champions, et Paris va se maintenir.
Mais c'est la preuve que dans le football, comme dans la vie, il ne faut jamais que son sort dépende des autres, c'est tout.
Oui.
Les Marseillais ont eu l'occasion d'assurer eux-mêmes le titre, ils ne l'ont pas fait. Après, pour l'OM, dépendre du PSG, c'est très risqué.
Quelle belle leçon, c'est
un des deuxièmes les plus brillants de l'histoire, hein, puisqu'avec le nombre de points qu'ils auront à la fin de la saison, ils auraient été champions dans plein d'autres années, mais ce n'était pas le cas cette fois-ci. Marseille, on vous l'a dit, qui va perdre la finale de Coupe de l'UEFA quelques jours plus tard à Moscou face à Parme 3-0. Donc une saison sans titre pour les Marseillais. Et Courbis, qui n'a jamais été champion, qui n'a jamais gagné titre en France, qui a raté l'occasion d'avoir un palmarès en France. C'était cette année, en 99, il ne l'a pas fait. Voilà, merci à tous. Merci Jean-Luc. On reparlera dans 20 ans des matchs que vous commentez en ce moment.
Hervé, juste pour dire que j'étais très très ému de revoir ce match parce que, évidemment, à côté de moi, il y avait Thierry Gilardi. J'ai vraiment eu du mal à écouter ce qu'on disait et à m'intéresser au match pendant plusieurs minutes. Ouais.
Merci pour ce témoignage, Jean-Luc. Merci à tous. N'oubliez pas Nulle Part Ailleurs demain, bien sûr, hein, avec Philippe Gildas.
Alors rendez-vous dans 20 ans pour débriefer le Brest 3 OCR que Jean-Luc a commenté hier soir.
Vermine.
Exactement. Voilà, c'était Canal Football Classique, le podcast de Canal+, consacré aux grands événements qui ont écrit l'histoire du foot. Pour découvrir les prochains épisodes, revivre de grandes émotions du ballon rond, rendez-vous sur MyCanal et toutes les applications de podcast. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.